Voilà, ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. À Sainte-Agne, on sait que l'estrade, elle est haute. Elle a pas changé. On est toujours haut, on est toujours voilà, un peu loin, mais sachez que l'estrade est haute, mais que le bonhomme, il est petit. Vous vous rappelez de comment Abraham s'est tourné vers Dieu quand il intercédait pour Lot? Il a fait appel à Dieu, il priait ainsi, s'est approché de Dieu ainsi avec cette humilité, moi qui ne suis que poudre et cendre. Et c'est comme ça que je me présente aussi devant vous ce matin. Moi, je suis tout petit. Je suis que poudre et cendre. Je suis que la poussière. Dieu daigne se servir de la poussière de la terre pour parler à son peuple. Dieu daigne se servir de nous comme des instruments. L'homme est petit, mais celui qui est grand, c'est notre Dieu. Celui qui est grand, c'est Jésus. Celui qui est grand, c'est celui qui s'est donné à la croix pour chacun d'entre nous. Et ma prière, c'est que les yeux de nos cœurs soient fixés sur lui ce matin. Moi, c'est pas parce que je suis au-dessus, là, c'est pas parce que je suis trois marches au-dessus de vous que je suis supérieur à qui que ce soit. Non, pas du tout. On le sait, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et ce matin, c'est vraiment comme cela qu'on veut aussi tous s'approcher de lui, avec cette humilité dans nos cœurs et vraiment cette écoute en même temps de sa parole. Je vous propose qu'on prie ensemble pour écouter ce qu'il a à nous dire. Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es Seigneur celui qui est venu, tu es celui qui t'est abaissé pour chacun d'entre nous, tu es Seigneur celui qui est venu nous chercher, tu es Seigneur celui qui nous a sauvés, tu es Seigneur celui qui nous a tout donné. Ta présence nous suffit, ton esprit nous suffit, la croix nous suffit, ta parole nous suffit, tu nous as tout donné pour réussir. Tu nous as tout laissé, non pas pour nous envoyer dans des situations compliquées, difficiles, droit dans le mur, mais tu nous as tout donné pour être des vainqueurs, pour être victorieux, pour triompher. Et comme nous l'avons chanté, nous avons un bel avenir. En toi, notre avenir, il est assuré. Notre avenir, il est entre tes mains. Tu nous as donné cette espérance vivante, merveilleuse, glorieuse. Et nous savons que ce que tu as commencé, tu l'achèves. Tu ne commences pas et tu ne fais pas une œuvre à moitié dans chacune de nos vies et dans ton église ici à Sainte-Agne. Mais ce que tu commences, tu l'achèves, tu l'amènes à la perfection. Et Seigneur, vraiment, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Nous sommes là encore ce matin pour te dire, Seigneur, parle-nous, éclaire-nous, nous avons besoin de toi. Ta parole nous dit que tu as envoyé ta parole et tu l'es guéris. Ta parole, elle est puissante encore ce matin pour apporter guérison, pour apporter consolation, pour apporter des réponses, pour, Seigneur, amener des changements, des transformations dans les vies et dans les cœurs. Et nous te louons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais et nous te prions vraiment de nous aider à saisir ce que tu veux nous dire ce matin et à faire ce que tu attends de chacun de nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte, je t'encourage à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Je voudrais lire un autre passage aussi avec vous dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 1er. Apocalypse, chapitre 2, verset 1er. écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Voilà, ce matin, j'ai à cœur de vous parler du désir de Dieu, du désir de Jésus, de voir un feu se répandre. Jésus dit dans Luc 12, 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» En venant sur cette terre, Jésus a jeté un feu nouveau, le feu de son amour, le feu de sa parole, le feu de son esprit. Depuis sa venue sur terre, et grâce à son sacrifice à la croix, ce feu s'est répandu dans les cœurs. Et nous pouvons voir que le feu de Dieu s'est parfois répandu de manière très rapide, comme on peut le voir dans la Bible, dans Actes 2 par exemple, à la Pentecôte, le feu s'est répandu de manière très rapide. Mais on sait aussi dans l'histoire de l'Église, il y a eu des temps parfois pas toujours faciles, et le feu a pu se répandre quand même toujours parfois de manière plus lente. En tout cas, il est venu jusqu'à nous. Et ce feu a touché nos cœurs. Amen. Nous pouvons dire aussi, pour plusieurs d'entre nous, comme les disciples d'Emmaüs ont pu le dire, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous expliquait les Écritures. Amen. Nous avons fait aussi cette expérience. Notre cœur ne brûlait-il pas quand Jésus nous a parlé, quand nous avons reçu sa parole, quand il s'est révélé à nous, quand il nous a révélé qui il est, quand il nous a révélé son amour, quand il nous a révélé la croix, notre cœur ne brûlait-il pas? Amen. Nous sommes plusieurs à avoir fait cette expérience qui a transformé notre vie. Et ce feu, cet amour est venu dans notre cœur pour Dieu en premier et puis pour notre prochain. Maintenant, j'ai une question ce matin pour chacun d'entre nous, c'est qu'en est-il de ce feu? Comment est la force de la flamme du feu de Dieu dans mon cœur? Comment est la force du feu de Dieu, comment est la force de la flamme dans l'Église ici de Sainte-Agne? La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, « N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit ». Cela nous montre notre responsabilité. Vous le savez, dans la vie chrétienne, si on ne veille pas, on peut voir le feu de Dieu diminuer, voire s'éteindre complètement. Et si on en est là, si cette situation nous concerne, eh bien ce matin vous êtes à la bonne place. Et il y a une parole de Dieu, je le crois, pour chacun d'entre nous ce matin, au travers de ce message, c'est ce que nous allons voir, pour nous encourager, pour nous aider, pour aller de l'avant. Je voudrais qu'on s'arrête d'abord, premièrement, sur le contexte des deux passages que nous avons lus en introduction. Le premier passage que nous avons lu, c'est une lettre que Paul a écrite à Timothée. Paul a écrit cette lettre dans un contexte de persécution. Sous l'empereur Néron, en 67 après Jésus-Christ, il y a eu de cruelles persécutions contre les chrétiens, contre l'Église. Et Paul, dans ce moment, fut emprisonné. Il a écrit ses lettres alors qu'il était en prison. C'est probablement la deuxième lettre de Paul à Timothée, c'est probablement la dernière lettre qu'il a écrite. Et dans cette lettre, on voit qu'il ne se fait aucune illusion quant à la fin de son ministère et même quant à la fin de sa vie. Il dira à Timothée, dans 2 Timothée 4, 6, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. » Et il rajoutera « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » On voit l'apôtre Paul même face à la mort, même face à cette persécution, rempli de foi, rempli de confiance, rempli d'assurance quant à son avenir, quant à l'éternité, sa vie avec le Seigneur. Il sait que sa vie est entre ses mains, il sait qu'il va retrouver son Sauveur et qu'il va le voir face à face. Il sait que la couronne de justice, elle lui est réservée. Il a cette assurance. Et dans ce moment, alors qu'il est persécuté, alors qu'il est en prison, et vous rendez compte les conditions en ce temps-là, eh bien, il va envoyer ses lettres à Timothée et il va l'encourager. Il va encourager son stagiaire, il va encourager ce pasteur en formation qui était à Éphèse, Timothée était à Éphèse, et il écrit surtout à son bien-aimé, à son enfant bien-aimé. C'est comme ça qu'il va l'appeler dans le début de cette lettre. Il sait que Timothée est jeune, qu'il peut être timide, qu'il peut avoir des faiblesses, et Paul va l'encourager. Il va le mettre en garde contre les menaces au dehors de l'Église, les oppositions, persécutions qu'il pouvait y avoir. Et il va le mettre aussi en garde contre les dangers à l'intérieur de l'Église. Faux enseignements, fausses doctrines, faux prophètes, faux pasteurs. Et Paul connaissait bien cette Église, parce que c'est lui qui l'avait fondée. On peut le voir dans Actes chapitre 19 et le chapitre 20 aussi. Nous montre des situations où Paul est allé dans ce lieu à Éphèse et comment cette église a commencé. Cette église, dans ses débuts, a eu un rayonnement extraordinaire par justement la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du feu de Dieu. Elle a connu un rayonnement extraordinaire dans toute l'Asie mineure. Cette église deviendra une église mère qui va enfanter d'autres assemblées qui, à leur tour, vont elles-mêmes propager d'autres œuvres. L'église d'Éphèse était une référence. L'apôtre Paul y est resté près de 3 ans. Et puis après, il a laissé Timothée, responsable de cette église. Et comme je le disais, quand Paul va écrire à Timothée, Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse. Et donc, dans ses lettres, Paul va mettre en garde Timothée. Il va lui donner plusieurs conseils et il va lui donner une parole personnelle, une parole précise pour lui, et il va lui dire, je t'encourage, comme nous l'avons lu, je t'exhorte, je t'encourage à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Dans sa première lettre, Paul avait dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Et dans cette deuxième, il y revient en lui disant, d'une autre manière, il lui donne cette parole à nouveau, je t'encourage, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Et puis, plus tard, des années après, pas très longtemps après, mais quelques années après, Dieu va envoyer une lettre, mais là, il va envoyer une lettre à toute l'Église, à toute l'Assemblée. C'est cette lettre que nous avons lue dans l'Apocalypse, au travers de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean va recevoir ses révélations, et dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, vous savez, il y a 7 églises qui sont nommées. Et Jean va recevoir un message de la part de Dieu pour ces différentes églises. Il y avait différentes situations et on va retrouver parmi ces 7 églises l'église d'Éphèse. Et on voit le message que Dieu va adresser là, cette fois-ci, à toute l'église. Jésus va dire à cette église, tu as vraiment travaillé dur, je le dis en d'autres termes. Tu as persévéré, tu ne t'es pas fait berner par des gens qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, des gens qui se disent prophètes et qui ne le sont pas. Tu as du discernement. Et Dieu, Jésus, ajoute à cette église, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Si on s'arrête là, on pourrait se dire, mais cette église, elle est vraiment, elle est idéale, elle est vraiment un modèle exemplaire. Cette église, quand on s'arrête à ces paroles, on pourrait se dire, mais vraiment, dans cette église, tous les croyants, tous les chrétiens sont forts, sont spirituels, ils sont sérieux. Mais il y a un mais. On a toujours une marge de progression. Vous le savez, quelle que soit notre vie, quelle que soit notre situation, il y a un mais. Et Jésus ajoute dans cette situation, au verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. C'est interpellant de voir que ce qui avait été dit au jeune pasteur Timothée va être dit d'une autre manière. C'est similaire. Pour moi, personnellement, c'est une parole qui est quand même similaire. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu et tu as abandonné ton premier amour. Il n'y a plus le feu, il n'y a plus la flamme. C'est interpellant de voir que ce qui avait été dit au jeune pasteur Timothée va se retrouver être dit là à toute l'église d'Éphèse. Alors ce matin, on n'est pas là, je ne suis pas là pour dire au travers de ce texte et de cette situation qui est le fautif. Qui c'est qui a amené cette situation dans toute cette assemblée. Ce n'est pas ce que je veux rechercher, ce n'est pas ce que je veux dire au travers de ces paroles et au travers de ce texte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations et on est tous concernés. On est tous concernés. C'est ça ce que je veux dire au travers de ces paroles. Parce que parfois, il peut y avoir des situations qui viennent et qui se passent dans l'Église et on peut vite se dédouaner sur le pasteur. S'il y a moins de personnes à l'Église, s'il y a moins de personnes à la réunion de prière, c'est la faute du pasteur. S'il y a moins de personnes à la réunion d'évangélisation, c'est la faute du pasteur. Si aujourd'hui on en est là, c'est la faute du pasteur. Vous voyez, on peut vite se dédouaner comme cela, se déresponsabiliser. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais personnellement pour alimenter le feu dans ma vie personnelle, mais dans la vie de l'Église, dans la vie de l'Église de Sainte-Anne? Qu'est-ce que je fais personnellement? Ce que je veux dire au travers de cette situation, bien sûr, ça m'interpelle. Bien sûr, ça m'interpelle de voir qu'il y a une parole qui est donnée à un pasteur précisément et qui cette parole va se retrouver dite à toute une église. Et c'est vrai, on a une responsabilité en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, en tant que responsable d'église. Mais comme je le disais, on est tous concernés. Tout n'est pas la faute du pasteur. Nous avons chacun une responsabilité. Et Jésus va montrer à cette église, au travers de cette parole, ce qui lui manquait. Non pas afin de la condamner, parce que Jésus l'aime cette église. Toutes ces églises dans l'Apocalypse appartiennent à Jésus. Et Jésus aime cette église, Jésus désire cette église. D'ailleurs, Éphèse, c'est ce que ça signifie, désirer. Jésus l'aime vraiment cette église. Il veut la bénir, il veut la voir progresser, il veut la voir avancer. C'est pour cela qu'il lui parle, pour lui montrer ce qui lui manque. Et il va donc lui donner cette parole. Et donc on peut faire ce constat dans cette situation à Éphèse, le feu de Dieu s'était éteint. Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour cela, mais voilà, il y avait cet état. Le feu de Dieu s'était éteint. Quand on parle de Dieu, quand on parle du feu de Dieu, il faut bien de comprendre de quoi on parle. Quand je parle du feu de Dieu, je ne parle pas de rechercher toujours à ressentir la présence de Dieu. C'est normal, après des années de vie chrétienne, de ressentir la présence de Dieu autrement, différemment qu'au début. Quand on est au début de la vie chrétienne, on peut avoir plusieurs ressentis, émotions. Parfois, on est touché vivement dans nos sentiments, dans nos émotions, dans la présence de Dieu. Mais c'est normal, après des années, de vivre la présence de Dieu autrement. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions être des chrétiens spirituels, des chrétiens matures, qui ne sont pas toujours là à dépendre des émotions, à dépendre du ressenti, à dépendre des sentiments. Dieu veut nous apprendre à marcher par la foi. Et marcher par la foi, c'est pas je ressens, je ressens toujours, j'ai besoin de ressentir, mais marcher par la foi, c'est je crois, je sais. Je crois à ta parole. Je sais que ta parole me dit que tu es là, que tu es présent. Ta parole me dit que tu es là avec moi tous les jours. Je n'ai rien à craindre. Je sais que tu es là. Que je ressente ou que je ressente pas, je sais que tu es là. Quand je parle du feu de Dieu, je ne parle pas donc de ressentir toujours la présence de Dieu. Quand je parle du feu de Dieu, je ne parle pas non plus d'excitation humaine, d'excitation charnelle où voilà, on va sauter partout. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup d'églises qui affichent sur les réseaux sociaux que c'est le feu dans leur église, que c'est le feu dans leur réunion, que c'est le feu dans ce qu'ils font, dans leurs actions. Mais je pense qu'il faut vraiment être prudent et être vigilant. parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut parfois à des photos, à des vidéos, et sur les réseaux sociaux, c'est très facile d'amplifier les choses, d'exagérer les choses. Parfois, on a l'impression que, voilà, si on écoute toutes ces églises, il y a le feu de Dieu sur la France, et les églises sont un feu. Alors là, je me dis, je suis passé à côté, moi. Et je pense pas qu'on soit passé et qu'on passe à côté de l'action de Dieu. Mais je pense qu'il nous faut faire attention, être vigilant, à ne pas exagérer les choses. Parfois, quand on écoute ces églises et ces pasteurs, des fois, on a l'impression, c'est le ciel sur la terre. Mais dans la réalité, c'est des réunions où il n'y a pas eu spécialement d'action plus que cela. Mais parfois, voilà, par nos mots, on peut aller au-delà. On peut exagérer, on peut amplifier. Et il nous faut être prudent aujourd'hui. Parce que on ne peut pas servir Dieu avec n'importe quel feu. Voyez? Nadab et Abihu, dans la Bible, j'allais presque dire, ils ont appris cette leçon, difficilement, mais en fait, la leçon, ils n'ont même pas eu à l'apprendre, parce que en apportant du feu étranger, ils ont subi la conséquence directe de leurs actes, de leurs actions. Nombre chapitre 3, verset 4, Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. C'était grave ce qu'ils avaient fait. Il y avait la parole de Dieu qui avait été annoncée. Comment il fallait s'approcher de Dieu. Tout était annoncé. Clairement, eux, ils ont voulu faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Ils ont apporté du feu étranger. Et voilà, ils ont voulu apporter comme ça un sacrifice à l'Éternel. Et il y a eu des conséquences directes à ce moment-là. Malheureusement, ça arrive encore de nos jours qu'il y en ait qui apportent dans l'Église un feu étranger. Ce n'est pas le feu de Dieu. Ça ressemble au feu de Dieu, c'est similaire, mais ce n'est pas le feu de Dieu. Ce n'est pas le feu qui nous parle de la sainteté de Dieu. Ce n'est pas le feu qui nous parle de la parole de Dieu, de la saine doctrine. Ce n'est pas le feu du Saint-Esprit, c'est le feu du sensationnel. C'est le feu de l'émotionnel qui est apporté. Et aujourd'hui, c'est facile de fabriquer cela. C'est très facile, humainement, d'amener des émotions, d'amener cette excitation dans des réunions, cette excitation charnelle. Je le partageais hier soir avec les jeunes et je leur disais, soyez prudents. Parce que il y a parfois des événements où on trompe les jeunes sur la présence de Dieu. Et on confond la présence de Dieu avec les sentiments, avec les émotions. On conduit les jeunes à une ambiance, mais on les conduit pas vraiment à la présence de Dieu, à la croix, et à connaître, à vivre vraiment de manière profonde la présence de Dieu. Et je leur disais, en d'autres termes, que avoir des frissons dans une réunion n'est pas toujours synonyme de la présence de Dieu. Au travers de la musique, on peut rapidement amener des frissons, amener des émotions, amener du ressenti. Bon, ce sera pas avec moi. Ce sera pas quand c'est moi qui joue. Mais il y en a d'autres qui sont très forts et très compétents dans ce domaine et qui savent faire. Et aujourd'hui, parfois, il y a ces influences et beaucoup se trompent sur le feu de Dieu, sur la présence de Dieu. Résultat, il y en a plusieurs qui sont séduits, parfois même des pasteurs, des serviteurs de Dieu, et qui recherchent le sensationnel, le spectaculaire. Mais il y a des conséquences, comme du temps de Nadab et Abihu, il y en a qui dérivent, et il y en a qui meurent spirituellement. Donc vraiment, veillons, frères et sœurs, à ne pas apporter ce genre de feu, le feu étranger de l'ambiance du monde. Cherchons pas à attirer le monde avec les moyens du monde, mais la parole de Dieu suffit, le Saint-Esprit suffit, la croix suffit. Amen. Cherchons pas à apporter ce genre de feu, le feu de la compromission, le feu de la rébellion, le feu de notre nature charnelle. Cherchons pas à fabriquer une pâle imitation du feu de Dieu. Parce qu'en fait, ce sont toutes ces attitudes qui étouffent. Ce sont toutes ces attitudes qui éteignent l'esprit. Recherchons, nous encourage à cela, mon frère, ma sœur, à rechercher le véritable feu de Dieu, le feu du premier amour en même temps. Pour Jésus, le premier amour, c'est l'amour qui doit être premier en tout. Il faut que Jésus soit soit aimé en premier par-dessus tout. Quand on aime quelqu'un, il y a cet amour qui est là dans notre cœur. Quand on rencontre sa bien-aimée, son bien-aimé, vous vous rappelez, mes frères, vous vous rappelez, mes sœurs, quand vous avez rencontré votre mari, quand vous avez rencontré votre épouse, monsieur Jeannesien, vous vous rappelez quand vous avez rencontré madame Jeannesien, comment le cœur s'est mis à battre, le feu qui est venu, madame Jeannesien, pour les beaux yeux bleus de votre mari, hein, ce feu aussi qui a rempli votre cœur, hein, et qui était là. Ce feu qui est venu dans nos relations, dans nos couples, dans le temps des fréquentations, dans le temps des fiançailles, avec la lune de miel, tout ça, c'est merveilleux, c'est magnifique quand il y a le feu. Mais parfois, il arrive que dans les couples, cet amour diminue. Avec les années, on s'installe dans des habitudes, on s'installe dans une routine, on s'habitue l'un à l'autre, on accomplit son devoir, on s'efforce d'être convenable, on s'interdit de se quereller, on reste poli, on a des formules, un vocabulaire approprié, on sait bien parler à son époux, on sait bien parler à son épouse, mais il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus cette flamme, ce feu du premier amour. Et il peut parfois y avoir plusieurs explications à cela, mais entre autres, il faut savoir que l'amour, ça s'entretient. L'amour, ça s'entretient. Tu as abandonné ton premier amour parce que tu as négligé de l'entretenir. Ne néglige pas le don qui est en toi. L'amour, ça s'alimente. Vous le savez, si on ne met pas de bois dans la cheminée, il n'y aura pas de feu. Et c'est vrai pour les couples, mais c'est également vrai pour notre relation avec Dieu. On peut aussi, avec Dieu, après plusieurs années de conversion, se retrouver dans une routine. On connaît les prières, on a du vocabulaire, on sert le Seigneur, mais il n'y a plus ce feu. On vient au culte, on vient aux réunions par habitude. C'est bien d'avoir l'habitude de venir aux réunions, c'est une bonne habitude. Mais il ne faut pas venir aux réunions que par habitude. Et quand les habitudes viennent à remplacer le feu, alors mon frère, ma sœur, il y a un problème. Et dans l'église d'Éphèse, vous voyez, il y avait ce problème. Il y avait des habitudes, il y avait des œuvres, il y avait de bonnes choses, une bonne connaissance de la parole de Dieu, du discernement, de la persévérance, mais il y avait un manque dans l'amour. L'amour, le premier amour, c'était éteint. Et le Seigneur, comme je disais, a donné cette parole à cette église, mais en même temps, il lui a donné la solution. Il lui a donné la solution pour que le feu revienne. Et on pourrait être tenté de, nous, ce matin, donner plusieurs conseils. De nombreux conseils quand le feu diminue, quand la flamme diminue, pour retrouver le zèle, pour retrouver l'ardeur. Mais Jésus va donner simplement trois paroles à cette église. Et j'aimerais, pour terminer, m'arrêter sur ces trois paroles, afin qu'on les comprenne bien, afin qu'on les vive. Jésus va dire simplement à cette église, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Le souvenir, c'est important. Parfois, on a besoin de se souvenir de moments où on a été très engagé, de moments où notre amour pour Christ était vif. On a besoin de garder cela dans notre tête et surtout dans notre cœur, parce que ça va être un point de repère sur lequel on va pouvoir revenir si on glisse, si on s'en éloigne. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi comment tu étais avant. Souviens-toi comment ton cœur était bouleversé par l'amour de Dieu, par sa grâce, quand on te parlait de lui, quand on te parlait de la croix, comment ton cœur était touché. Souviens-toi quand tu allais aux réunions en courant, à toutes les réunions. Souviens-toi comment tu louais, tu adorais le Seigneur avec ce cœur bouillant. Souviens-toi comment tu avais soif que le Seigneur t'utilise, se serve de toi. Comment tu avais soif d'être utilisé dans l'exercice des dons spirituels. Souviens-toi comment tu servais le Seigneur, sans compter les heures. Souviens-toi comment tu avais à cœur l'évangélisation, parler de Jésus autour de toi. Souviens-toi de cela encore ce matin. Souviens-toi de comment tu t'investissais dans la prière, dans le lieu secret et en même temps avec l'Église, dans les réunions de prière. Souviens-toi comment tu prenais à cœur les personnes dans le besoin, les personnes isolées, les personnes fragiles, les personnes malades. Ce matin, souviens-toi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Jésus va dire à cette église aussi, repens-toi. Quand on parle, nous, de repentance, on pense souvent à toutes sortes de péchés comme voler, mentir, commettre un adultère ou d'autres péchés encore. On pense rarement, en fait, à un manque dans l'amour. Pourtant, Jésus nous montre que si on en est là, si on a abandonné le premier amour, c'est un péché. On doit s'en repentir. Jésus dit à cette église, repens-toi. Et la repentance, c'est aussi c'est admettre là où on en est. C'est voir la situation comme Dieu la voit. Et ce matin, je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, si tu as abandonné le premier amour, eh bien, reconnais tout simplement. Reconnais la vérité. Reconnais que si pour toi, tu réalises qu'il y a un décalage entre ces moments au début de ta vie chrétienne et maintenant, aujourd'hui, dans le feu, dans l'amour, si tu réalises qu'il y a un décalage, que ça a diminué ce matin, simplement, demande pardon au Seigneur. Reconnais qu'il te manque cette flamme, qu'il te manque cette ardeur. Il faut que Jésus soit aimé tout à nouveau, en priorité, et que nos cœurs soient embrasés pour lui. Amen. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. En d'autres termes, ça veut dire remets du bois dans le feu. Et quel bois devons-nous mettre pour que le feu reprenne, pour que cette flamme soit ravivée? Eh bien, c'est le bois de l'amour. Réaliser tout à nouveau l'amour de Dieu, la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est le bois de la reconnaissance, le bois de la louange, le bois de l'adoration. Je t'encourage à cela, que ce soit dans ta vie personnelle, à t'émerveiller encore de la grâce de Dieu pour toi, de la présence de Dieu, de sa fidélité, de comment le Seigneur agit encore aujourd'hui, de comment il sauve, de comment il transforme, de comment il agit encore dans les vies, dans les cœurs et dans les situations. Je t'encourage à mettre ce bois, le bois de l'amour, de la reconnaissance, de l'adoration, de la louange, le bois de la parole de Dieu, de l'obéissance à la parole, afin que ce feu soit ravivé, soit rallumé, qu'il y ait encore le bois de la prière dans le lieu secret, la prière, communion avec le Seigneur, la prière en langue, si tu es baptisé, vraiment je t'encourage à parler en langue, à prier en langue, à exercer le parler en langue, que ce soit dans ta vie personnelle, et puis à participer aussi aux réunions avec l'Église. Persévérer dans les réunions de prière. Vous avez vu, à la Pentecôte, le feu est descendu, pas dans la vie d'une personne isolée, mais le feu est descendu sur l'Église qui se retrouvait et qui persévérait dans la prière, qui persévérait dans la chambre haute. Et je t'encourage à cela. Parfois, la flamme peut diminuer, on peut se sentir fatigué, abattu, et parfois il suffit simplement de revenir. De se retrouver à notre place, à notre poste, avec l'Église, les frères et sœurs, dans la communion fraternelle, dans la prière. Parfois, il suffit simplement de revenir dans ces réunions pour que la flamme reparte, pour que la flamme revienne. Je t'encourage à mettre ce bois-là, à mettre encore le bois de nouveau de l'évangélisation, à parler de Jésus avec tes collègues de travail, avec ta famille, tes amis qui t'entourent, à mettre le bois du service pour le Seigneur, à t'impliquer, pratique tes premières œuvres. Jésus va dire à cette église, pratique tes premières œuvres. Comment tu t'investissais? Eh bien, à nouveau, implique-toi, investis-toi dans l'Église pour qu'il y ait ce feu, cette flamme. Et si tu ne sais pas peut-être par où commencer, quoi faire, eh bien, je t'encourage à aller voir les responsables de l'Église, à aller voir le pasteur et à lui demander simplement, mais où est-ce que je peux servir? Je veux qu'il y ait ce feu dans l'Église de Sainte-Agne. Qu'est-ce que je peux faire pour m'investir, pour m'impliquer, pour apporter aussi ce bois dans l'Église, le bois du service pour le Seigneur. Et puis pour qu'il y ait ce feu, mettons toujours le bois de la croix au centre de nos vies, au centre de nos cœurs. Parce qu'il n'y aura pas de feu, il n'y aura pas le feu de Dieu dans nos vies sans le bois de la croix. Sans cette mort à nous-mêmes, sans la croix au centre de nos vies et de nos cœurs, ce n'est pas possible de pouvoir vivre véritablement le feu de Dieu. Voilà ce que j'avais sur le cœur de partager avec vous ce matin. souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ça aurait été tellement plus simple pour moi de vous apporter un message avec que des promesses de Dieu, avec un message qui parle que des miracles que Jésus peut faire, comment Jésus transforme les vies, transforme les cœurs. Il y aurait tellement plein de sujets beaucoup plus faciles à amener. Je pense que pour ceux qui me connaissent, vous savez mon souci d'apporter la pensée de Dieu. Et ce message, je ne l'ai pas fait avec ChatGPT. C'est pas un message réchauffé, repris et retravaillé non plus. C'est vraiment en prenant du temps dans la prière que j'ai reçu cette pensée pour nous, pour moi en premier, pour nous, cette pensée concernant le feu de Dieu. Je sais que nos agendas sont souvent bien remplis. On a toutes sortes d'activités dans nos situations, dans nos vies. Je sais dans l'Église, comment dans les familles, les parents sont souvent bien chargés, le travail, les activités, tout ça, pour les enfants. Comment l'emploi du temps peut être très vite chargé. Mais je sais en même temps qu'il y en a un. Il y en a un qui cherche par tous les moyens à éteindre le feu. Je ne le vois pas partout. Vous savez de qui je vous parle, l'ennemi de nos âmes. Il cherche par tous les moyens. Aujourd'hui, nous, on n'est pas dans un contexte de persécution comme l'apôtre Paul a pu le vivre dans cette situation, comme des chrétiens dans l'Église des premiers temps ont pu connaître ces situations, être vraiment persécutés. Ou comme encore aujourd'hui, dans notre monde, plusieurs millions de chrétiens sont persécutés. On parle parfois d'une autre forme de persécution dans nos pays occidentaux. Mais je vous avoue que je suis gêné même quand on utilise ce terme, quand on parle de persécution pour nous aujourd'hui, dans notre situation ici en France. Parce que pour moi, on est quand même très loin de ce que vivent encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça qui me gêne. Quand on réalise comment certains frères et sœurs chrétiens sont réellement persécutés, comment on les tue, comment on les met en prison, comment on les viole, on les bat, on les met dans des camps de travaux forcés. C'est la réalité de plusieurs chrétiens. Donc c'est ça qui me dérange quand on parle pour nous parfois de persécution ici en France. Mais ça peut nous amener quand même à réfléchir, parce qu'on pourrait se dire, c'est vrai, on peut vivre une autre forme de persécution, quelque chose de vicieux, de subtil dans notre pays, ici en France, et dans notre situation, justement avec tout le confort dans lequel on est. Et avec toutes ces activités, avec tous ces loisirs, avec tous ces plaisirs. Alors je ne dis pas qu'on n'a pas le droit, on a droit à aucune activité, qu'on peut rien faire, mais je pense qu'il nous faut vraiment prendre conscience des temps dans lesquels nous sommes. Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Et je pense qu'il nous faut vraiment réaliser ce que nous devons mettre en priorité. Ce que nous avons besoin tout à nouveau de mettre en priorité dans notre vie personnelle, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles, et concernant aussi l'Église, concernant l'œuvre de Dieu. Ce que nous avons vraiment besoin, ce sur quoi nous avons vraiment besoin de nous concentrer tout à nouveau pour avancer, pour progresser, pour gagner du terrain. Amen. Et je nous encourage à cela. Le Seigneur est celui qui nous encourage ce matin à ranimer ce feu, cette flamme. Et j'aimerais terminer avec ce verset de Romains 12, 11 qui nous dit « Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. » C'est la transcription parole vivante. « Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. » Servez le Seigneur. Amen. Et je me rappelle pour terminer de ce chant aussi, que j'ai appris ici, en venant au milieu de vous. Seigneur, ce que mon cœur réclame. Amen. Vous le chantez toujours?
Oui,
de temps en temps, ça arrive encore. C'est un chant que, voilà, que les églises dans lesquelles on est passé, eh bien, qu'ils ont dû apprendre, qu'on a apporté avec nous et qu'on continue de prendre. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Amen. Et ce chant dit aussi, le seul secret de la victoire, c'est le feu. Amen. Et je crois que c'est ce dont nous avons besoin. Quand il y a le feu, quand il y a le feu de Dieu, quand il y a le feu du premier amour, eh bien, les choses avancent. Amen. Recherchons ce feu. Veillons à alimenter ce feu, cette flamme, personnellement et ensemble. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On prie ensemble. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce de tout notre cœur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur, parce que tu sais ce dont nous avons besoin. Tu nous parles, tu nous éclaires ce matin encore avec amour, avec bienveillance, avec miséricorde, avec grâce. Tu nous aides Seigneur pour saisir Seigneur ce dont nous avons besoin pour avancer d'une manière qui t'honore, d'une manière qui te glorifie. Et afin que nous puissions être des instruments utiles, efficaces entre tes mains, des sources de bénédiction, des flammes de feu. Tu fais, Seigneur, ta parole nous le dit, de tes serviteurs, de tes servantes, des flammes de feu. Tu es venu, Seigneur, pour jeter un feu nouveau. Et tu nous dis, qu'ai-je à désirer si ce feu est là? Ton désir est satisfait, ton désir est accompli. Et c'est ce que nous sommes venus encore rechercher ce matin. C'est ce dont nous avons besoin. Seigneur, remplis-nous encore. Remplis-nous, Seigneur, tout à nouveau. Seigneur, allume, ravive, Seigneur, ce feu. Nous t'en prions, nous t'en supplions, Seigneur. Nous aspirons à toi, à plus de toi, plus de ta présence. Non pas à fabriquer une émotion, à fabriquer des sentiments, à fabriquer du spectacle, Seigneur. Mais ce que nous voulons, c'est vraiment, Seigneur, vivre ta présence. Merci, Seigneur, de bénir l'église de Sainte-Agne. Merci de bénir ses responsables. Merci, Seigneur, de bénir chaque membre, chaque couple, chaque famille, chaque enfant, encore ce matin, Seigneur, c'est toi qui agis dans les cœurs, c'est toi qui confirme, qui manifeste ta présence encore ce matin, au nom de Jésus et pour ta gloire. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Amen.